À ce récit, un sourire d'incrédulité fleurit sur mes lèvres. Et de petites lueurs de rigolade avivèrent l'éclat de mon regard. Mon interlocuteur ne se démonta point. Ce qui ne vous surprendra nullement quand vous saurez que mon interlocuteur n'était autre que le capitaine Cap, ancien starter à l'Observatoire de Québec. Celui qui donnait le départ aux étoiles filantes. Cap se contenta d'appeler le garçon du bar et de commander tout Maure, ce qui est la façon américaine de dire « remettez-nous ça » ou plus clairement « encore une tournée ». Je connais le Captain Cap depuis pas mal de temps. J'ai souvent l'occasion de le rencontrer dans ces nombreux American Bars qui avoisinent notre Opéra National et l'église de la Madeleine. Je suis accoutumé à ces hyperboles et à ces bluffages. Mais cette histoire-là, vraiment, dépassait les limites permises de la blague canadienne. Les Canadiens, charmants enfants d'ailleurs, sont, comme qui dirait, les Gascons transatlantiques. Cap me racontait froidement qu'on venait de découvrir, à 6 milles d'Arthurville, province de Québec, une carrière de charcuterie. J'avais bien entendu et vous avez bien entendu. Une carrière de charcuterie. The Meat Land. Terre de viande, comme ils disent là-bas. Je résolus d'en avoir le cœur net. Et le lendemain matin, je me présentais au commissariat général du Canada, 10 rue de Rome. En l'absence de M. Fabre, l'aimable commissaire, je fus reçu, fort gracieusement je dois le reconnaître, par son fils Paul et l'honorable Maurice O'Reilly, un jeune diplomate de beaucoup d'avenir. « Le Meatland !» se récrièrent ces gentlemen. « Mais rien n'est plus sérieux !»« Comment ? Vous ne croyez pas au Meatland ?» Je dus confesser mon scepticisme. Ces messieurs voulurent bien me mettre au courant de la question et j'appris de bien étranges choses. Aux environs d'Arthurville existait, en pleine forêt vierge, elle était vierge alors, un énorme ravin en forme de cirque formé par des rocs abrupts et tapissé, à l'instar de nos Alpes, de mille sortes de plantes aromatiques. Thym, lavande, serpolet, laurier sauce, etc. Cette forêt était peuplée de cerfs, d'antilopes, de biches, de lapins, de lièvres, etc. Or, un jour de grande chaleur et d'extrême sécheresse, le feu se mit à ses grands bois et se propagea rapidement par toute la région. Affolées, les malheureuses bêtes s'enfuirent et cherchèrent un abri contre le fléau. Le ravin se trouvait là, avec ses rocs abrupts, mais incombustibles. Les animaux se crurent sauvés. Ils avaient compté sans l'excessive température dégagée par ce monumental incendie. Cerfs, antilopes, biches, lapins, lièvres, etc. se précipitaient par milliers dans ce qu'ils croyaient le salut et n'y trouvaient que la mort par étouffement. Non seulement ce gibier mourut, mais il fut cuit. temps que la température ne fût pas revenue à sa norme, toute cette viande mijota dans son jus. Ainsi que l'on procède dans les façons de cuisine dites à l'étouffée. Les matières lourdes, os, cornes, peau, glissèrent doucement au fond de cette géante marmite. La graisse plus légère monta, se figea à la surface, composant de la sorte une couche protectrice. D'autre part, les petites herbes aromatiques, à l'instar de celles de nos Alpes, parfumèrent ce pâté et en firent un mets succulent. Ajoutons qu'un dépôt de Midland doit prochainement s'installer à Paris, dans le vaste immeuble qui fait le coin de la rue des Martyrs et du boulevard Saint-Michel. Une société est en voie de formation pour l'exploitation de cette substance unique. Nous reviendrons sur cette affaire. J'aime bien le docteur Pajot. Je l'aime beaucoup même. C'est le plus spirituel professeur et l'examinateur le plus réjouissant de la faculté de médecine. Mais qu'il me permette de lui dire avec la rude franchise d'un soldat qui s'est mal fardé la vérité. En cette affaire de fécondité artificielle, lui et ses collègues se sont mis dans l'œil un doigt grand comme celui de la Providence. La simple lecture de cette étincelante chronique montrera à ces trois docteurs l'énormité de leur faute. Et je ne désespère pas de les voir, d'ici peu de temps, couverts d'un long cilice, venir abjurer leurs erreurs en pleine place Médicis. La place Médicis sera choisie de préférence à celle de l'école de médecine, sa voisine, à cause des nombreuses terrasses de brasserie qui émaillent son pourtour. Ce que j'ai à dire est d'une nature tellement délicate qu'il me faudrait, pour bien m'en tirer, la plume de Péladan lui-même. Enfin, je ferai mon possible pour glisser, mortel, sans appuyer. On a tant commis jusqu'à présent de concubitus sine lucina qu'on pourrait bien se livrer maintenant à un peu de lucina sine concubitu. Ce serait bien à son tour, à cette pauvre Lucine, de régner sans concurrence préalable. La fécondation artificielle, mais vous n'y pensez pas! Ça peut être tout bêtement la régénération complète et formelle de l'humanité. D'abord, comme c'est simple et commode. Que d'efforts inutiles supprimés et d'humiliation et de surprise. C'est la distance domptée. Et le temps vaincu. Les marins, les voyageurs qui s'en vont au loin pour des années, pourront laisser à la maison de petites fioles mystérieuses qu'on mettra en endroit sûr pour ne pas les casser. Et quand ces braves gens rentreront de leur fatigante pérégrination, les petites fioles seront vides. Mais la maison sera pleine de babies roses qui sauteront au cou du revenant. C'est alors que Charlot pourra s'amuser sans remords, car il sait s'arranger. S'il est économe et soigneux, son amusement pourra être utile à lui-même et à ses contemporains. Que de pertes sèches évitées désormais à la pauvre humanité. Sèche est une façon de parler. Tout homme prévoyant profitera de sa belle jeunesse pour économiser, et quand, vieux et décrépit, il ne pourra plus travailler, quelle joie pour lui de retrouver ses petites réserves. Car je ne doute pas que la science, qui n'a jamais reculé devant rien, ne trouve le moyen de conserver indéfiniment toute espèce de matière organique. Les grands hommes seront dorénavant pour leur patrie à un double profit. Ils l'illustreront par l'éclat ou l'utilité de leurs œuvres et pourront la peupler à l'infini de leurs glorieux rejetons. Il faudra pour cela qu'ils se prêtent à la circonstance. Je connais les grands hommes. Ils s'y prêteront. Voyez-vous les conséquences si cette opération avait été d'un usage courant pendant la vie de Shakespeare, de Molière, de Balzac ? On pourrait, si on voulait, se procurer d'ici l'année prochaine des petits Shakespeare, des petits Molière, des petits Balzac. Il y en aurait bien dans le tas qui aurait le génie de son père. Sans compter qu'on pourrait panacher. Je ne me dissimule pas toute l'audace que comporte ma proposition, mais ce n'est pas le toupet qui me manque. Oui, on pourrait panacher. Mettons qu'une dame artiste est dénuée de préjugés courants et le désir d'avoir un fils qui représente dans son ensemble ses trois idoles artistiques. Bouguereau pour la peinture, Deville Bichot pour la musique et Georges Jeunet pour ce que vous savez. Eh bien, elle ira trouver chacune de ces trois individualités. Avec de la politesse, on obtient tout. Et 9 mois après, la dame artiste serrera sur son sein l'enfant composite qui sera la gloire de ses vieux jours. Oh mon Dieu, ça sera bien simple. Et la politique ? Croyez-vous que ces nouveaux procédés ne pourront pas la modifier un peu ? Une supposition. Le docteur Corvisart dit un jour à Napoléon Ier « Sire, vous ne songez pas assez à votre dynastie. Et le roi de Rome ? Le roi de Rome n'est pas bien d'aplomb, sire. Il me donne des inquiétudes. Enfin, Corvisart, je ne peux pourtant pas. Mais si, sire, vous pouvez. » Et Corvisart, baissant la voix et regardant si Pajot n'est pas par là, fait au vainqueur de Marengo un petit cours de fécondation artificielle. Pendant quelques jours, l'empereur se retire dans ses appartements en la seule compagnie de son fidèle chambellan Cambacérès. À partir de ce moment, le futur locataire d'Hudson Globe sembla plus tranquille à l'égard de sa race. Aujourd'hui, le parti bonapartiste qui me paraît un peu à la manque, soit dit sans froisser des convictions respectables, ne serait pas fâché de retrouver quelques jeunes prétendants qui descendraient bien directement du petit caporal. La République n'en aurait pas pour 3 semaines. En outre, l'application de la fécondité artificielle panachée à l'art vétérinaire est d'une importance qui n'échappera à personne. Le produit incestueux de la carpe et du lapin cessera donc enfin d'être un mythe. Petite esclave libyenne, jeune négresse d'environ 13 ans, me remit sur un plateau d'or émaillé de gemmes la carte suivante. Baronne patente de Rouspétance, présidente de l'œuvre des vieux bouts d'allumettes en bois. Je passais ma longue main fine dans l'opulence bouclée de mes cheveux d'ébène, j'effilais la pointe de mes moustaches vainqueuses, je tapotais mes favoris et « Faites entrer cette dame, » dis-je de ma voix caressante. Madame la baronne, patent de rousse pétance, pénétra dans la capiteuse bonbonnière qui me sert de salon. C'est une femme charmante, d'une suprême éducation et comprenant admirablement la rigolade, ce qui ne gâte rien. Monsieur, débuta-t-elle après un léger silence et un petit trouble bien excusable, je suis déléguée par ces dames de l'œuvre des vieux bouts d'allumettes en bois pour venir implorer de vous la publicité que vous seul êtes capable de donner à notre entreprise. Votre nom respecté de tous, votre immense talent, la séduisance de toute votre personne, les sommes véritablement dérisoires que vous avez touchées pour le canal, tout, en un mot, tout vous désignait pour être notre porte-parole auprès du public. Je m'inclinais, telle la violette penchée par la brise. Voici le but de notre œuvre, poursuivit la dame. Mais, auparavant, vous occupez-vous de statistiques ? J'en suis un des maîtres les plus incontestés. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que chaque Français produit en moyenne, par jour, 1 gramme de bouts d'allumettes imbrûlés. Ce qui fait grosso modo, pour toute la France, 34 millions de grammes. Soit 34 000 kilos quotidiens de bois perdus pour tout le monde. Nous nous sommes mis en tête, mon cher maître, de récolter tout ce déchet et de l'utiliser au chauffage des familles pauvres. Or, avec 34 000 kilos de bois par jour, savez-vous combien on peut chauffer de familles pauvres ? Je n'ai jamais fait l'expérience. On peut en chauffer 3400, à raison, bien entendu, de 10 kilos par famille, ce qui est bien suffisant pour des personnes actives, mais qui battent la semelle entre leurs repas. Ce n'est pas tout. Avez-vous songé à tout ce bois perdu sous forme de taille de crayon ? À cette seule idée, madame, je n'en dors plus. Et mettons 20 000 kilos par jour. Encore du chauffage pour 2000 ménages nécessiteux. Mais pour cela, cher maître, il faut que la presse nous aide. Il faut que le public connaisse notre œuvre et s'y passionne. La baronne eut à ce moment un de ses sourires. « Comptez sur moi, madame, » fis-je en la relevant. « Dès demain, le grand public connaîtra votre œuvre, appréciera votre noble tâche. » De gros sanglots m'empêchèrent d'achever. Et maintenant, généreux auditeurs, et vous, compatissantes auditrices, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les renseignements complémentaires, s'adresser au siège de l'œuvre.